Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Vous êtes ici?
Oui.
Oui. C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Vous êtes là au cœur de la maison de la radio et de la musique, entre les quatre murs du studio 621, pour votre magazine de toute la scène française et plus ses affinités. Du lundi au vendredi, de 22h à 23h, vous avez rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et ce soir, on voit grand. Michel Legrand avec Macha Merrill et Stéphane Lerouge, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Michel Legrand, hier et demain, un coffret 5 CD consacré créé à ce géant de la musique française, jazz, variété instrumentale, cinéma, tout y passe, avec en bonus un album de reprise de Clara Luciani à Philippe Catherine, en passant par Thomas Dutronc, ils font tourner Les Moulins de son cœur. Vanessa Wagner est avec nous, bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Vanessa Wagner, pianiste qui s'est affranchie des codes du classique pour investir aussi d'autres répertoires, musique répétitive, minimale, musique électronique. Vous signez Study of the Invisible, un album passionnant avec des compositions de Steve Reich à Moondog et j'en passe. L'invisible s'écoute. Marion Guilbeault.
Il a été acteur, il est toujours réalisateur et maintenant il va être chanteur. C'est Nicolas Maury qui sera avec nous au téléphone vers 22h30 pour ses débuts dans la pop.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre avec un duo, c'est Juliette Armanet et Sébastiane. Juliette Armanet qu'on retrouve dans le coffret Michel Legrand pour sa reprise des Moulins de mon cœur. On va en parler avec vous, Macha Merrill et Stéphane Lerouge. Mais tout de suite, c'est Vertigo, c'est sur France Inter.
Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches. J'ai l'air un peu lâche. Mine de rien, je suis plus bien quand.
Juliette Armanet, je le disais en ouverture, on la retrouve dans le coffret Michel Legrand Hier et Demain avec son interprétation des Moulins de mon cœur. C'était la cérémonie des Césars 2018, c'est bien ça, Stéphane Le Rouge, Macha Meryl?
18.
J'ai dit quoi?
18.
Parfait. Et donc vous avez repris pour
oui,
ça n'a aucun sens.
Non, mais je voulais vous dire que vous avez eu raison de dire 18.
Ça commence toujours très fort. Un mot peut-être sur cette interprétation des Moulins de mon cœur version Juliette Armanet.
Je pense que Michel aurait adoré ce qu'il y a dans cette version-là, parce que Juliette Armanet, elle traque, elle l'a avoué d'ailleurs plus tard, chanter devant cette grande salle à Cannes.
En 2018.
En 2018, m'en semble-t-il. Et devant le jury, elle est juste accompagnée par son pianiste. Et je trouve qu'il y a un contraste que Michel aurait adoré entre l'intensité de son interprétation et en même temps ce dépouillement. C'est juste trois lignes, une voix et un piano.
Avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, en ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Macha Meryl, Stéphane Lerouge, je vous présente Vanessa Wagner. Elle est pianiste, classique, mais pas que. Depuis quelques années, vous travaillez d'autres répertoires. Musique minimale, post-minimale, composition électronique avec Rhône, avec Molécule, on y reviendra. Michel Legrand, pianiste aussi. Quel est votre lien avec son œuvre, s'il y en a?
Je n'en ai jamais joué, déjà. Et c'est vrai que c'est pas un répertoire dans lequel je me sentirais très à l'aise. Peut-être ça viendra. Non, j'ai pas énormément de liens, en tout cas personnels. J'ai malheureusement pas rencontré ce grand homme.
Et vous, Macha Meryl, qui avez partagé sa vie, qui lui avait aménagé le grand salon studio de la Motte dans le Loiret, votre Legrand à vous, c'était quoi, en termes de musicien?
Ah, c'était un conquérant, parce qu'il a finalement gagné. La musique tonale a gagné. Il a dû s'expatrier même à cause de ça. Parce qu'il ne faisait que de la musique tonale et qu'il n'aimait que les musiciens qui connaissent le solfège. Et donc tout le reste lui paraissait être du bruit et pas de la musique.
Non, mais je crois qu'il y a vraiment cette chose que Michel, et notamment à travers le cinéma, a pu faire la synthèse de toutes ces cultures. Quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui aimait autant la musique symphonique, la musique baroque, la musique impressionniste, la musique romantique, le jazz moderne, les musiques du monde. Et quelque chose nous a beaucoup touché avec Macha assez récemment, par rapport à ce coffret, donc Hier et Demain, c'est qu'on a demandé à un compositeur japonais qui s'appelle Joe Hisaishi, qui est le compositeur notamment de Kitano et des dessins animés de Miyazaki, s'il accepterait de nous faire une relecture d'une œuvre de Michel. Et il nous a dit, mais elle existe déjà. J'ai vu Les Parapluies de Cherbourg à Tokyo en 1964. Et ce jour-là, ce film et cette partition de Legrand ont façonné ma vocation. Et cette reprise des Parapluies est dans le coffret.
Alors, le mien...
Non seulement ça, mais lui va être chez nous pour le prix Michel Legrand.
Oui, parce qu'on va parler de ce prix dans quelques instants. Oui. Alors, mon Michel Legrand, c'est aussi le compositeur de chansons, avec une mention spéciale pour ce duo avec Nana Mouskouri, quand on s'aime, Legrand Mouskouri, avec un bonus que je vous ai rajouté et qui ne se trouve dans aucun coffret Legrand, un duo de stars, un couple mythique du cinéma français. Vous tendez l'oreille.
On peut marcher sous la pluie, prendre le thé. Passer l'été à Paris quand on s'aime. On peut se croire à New York, 5h du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok quand on s'aime.
On peut marcher la mer, dans et retour de la terre, se balancer dans les airs.
On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre beau fixe et printemps.
glace.
On peut marcher sous la pluie.
Prendre le thé
à minuit.
Passer
l'été à Paris.
Quand on s'aime,
on peut se croire.
On peut se croire à New York.
À New York, 5 heures du soir.
5 heures du soir, 5 o'clock.
5 o'clock, ou dans un square.
Ou dans un square de Bangkok.
De Bangkok.
Quand on s'aime.
Ah, ah.
On peut se croire sous la pluie.
Prendre le thé.
5 heures du soir. À minuit.
Passer l'été.
Dans un square.
De Bangkok.
À Paris.
Quand on s'aime.
Puisqu'il varie tout le temps entre beau fixe et printemps.
Donc deux duos pour cette version mixée par Stéphane Le Guenec, Le Grand Mouskouri, les autres vous les avez reconnus?
Donc Catherine Deneuve
et Gérard Depardieu. Vous connaissez cette version?
Moi, pas du tout, moi pas.
Moi je l'avais vu sur le site de l'INA et je m'étais dit, j'avais trouvé ça défenestrant, je m'étais dit mais c'est fou que finalement la fracture entre Deneuve et Demy est lié au fait que Catherine Deneuve voulait chanter dans les films de Demy, et Demy lui a dit non, tu dois être doublée par Anne Germain.
Qui est géniale.
Qui est magnifique, qui est vraiment l'équivalent chanté de sa voix parlée. Et donc, ils ont arrêté de travailler ensemble. Et là, finalement, Deneuve, malgré tout, chante du Legrand.
Et vous savez, c'est curieux, les chansons de Legrand, on a l'impression que c'est la règle d'or. Qu'il faut qu'un chanteur s'y coltine à un moment donné. C'est comme un examen. Si tu réussis à chanter une chanson de Michel Legrand, qui sont extrêmement difficiles à chanter, hein, c'est bourré de demi-tons très traîtres, alors, tu as ton passeport de chanteur.
Vous vous y êtes essayé?
Une fois, et vous l'avez dans le petit coffret. Ah, je sens que peut-être on va y goûter. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tâcher de sang noir.
Quel est le statut de cette chanson, Macha Merrill?
C'est une chanson qu'il a chantée lui-même, paroles de Dréjac, assez peu connue. Ouais. Beaucoup, beaucoup de chansons que Michel a enregistrées et qui sont moins connues. Et elle est très belle et je trouve qu'elle est très d'actualité parce qu'elle parle des gens qui se battent avec de beaux sentiments contre la laideur du monde.
C'est une question, ma chère Meryl, parce que vous aviez signé la postface du livre que vous aviez fait ensemble, hein, Stéphane Leroux, c'était la biographie, les souvenirs de Michel Legrand.
J'ai le regret de vous dire oui.
Oui, j'adore cette phrase. C'est vraiment lui. Vous aviez signé la postface après sa disparition dans la réédition. Quand vous vous êtes mariés, il a joué quelque chose pour la cérémonie?
Absolument, il y avait le Big Band. Alors, je dis pas, ça sonnait, hein. Et tout d'un coup, il a chanté, je pense, une des Parapluies de Cherbourg, la grande chanson « Jamais je ne t'oublierai », etc. Bon, et il me regardait, évidemment, J'étais presque gênée.
Mais presque. Alors, il y a déjà eu des coffrets. Hein. Il y a eu une intégrale, il y a eu une anthologie. Quel était le sens, cette fois-ci, de créer ce coffret 5 CD Stéphane Lerouge, Macha Meryl.
D'abord, la première chose, c'est que sur tous les coffrets antérieurs, Michel était quelqu'un qui regardait tout le temps en avant. Il rêvait en avant, dans une fuite éperdue de projets. Donc, il n'était pas du tout conservateur au sens premier du terme. Donc, il ne gardait pas son matériel. Donc, venir en studio, il détestait ça, réécouter les bandes, les numériser, construire. Donc généralement je venais le voir, je lui faisais écouter, il validait, il dégraissait un peu, il effectuait une sorte de réduction à la cuisson. Mais c'était comme son regard sur son œuvre. Là, pour la première fois, c'est la première anthologie qui sort après que Michel se soit envolé. Donc il a fallu prendre des libertés et puis essayer aussi de trouver des choses nouvelles, différentes. Et je dois dire que le disque s'ouvre, le coffret s'ouvre sur cet album qui réunit justement des interprètes du Nouveau Monde. Et c'est l'idée de Macha qui m'a dit qu'il faudrait qu'on commence sur le présent, sinon le futur de l'œuvre de Legrand, et qu'on aille chercher justement Luciani, Armanet, Thomas Dutronc, cette chanteuse de jazz coréenne magnifique, Yoo Sun Ah, magnifique, sur Sans Toi d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7 par exemple, Camille Berthaud,
Philippe Catherine aussi.
Voilà, donc c'était vraiment l'idée de commencer là-dessus, et puis en même temps d'avoir un territoire aussi du continent Legrand qu'on avait peu défriché, qui est celui des albums de variété instrumentale qu'il avait fait à ses débuts, et qui constitue un album du coffret.
Alors, pour nous guider dans ce coffret, Stéphane Lerouge, vous avez choisi quelques titres. Dans le CD2, qui est Michel Legrand, chanteur, vous avez choisi Mon dernier concert.
Sera-t-il offert ? Ce n'est pas banal. La soirée hivernale au petit journal. Tandis que Paris apprend le solfège, les pianissimi du piano de la neige. Dernier concert. Serais-je au sommet radieux de mon art en ce chant d'adieu, ce chant du départ? Avec bien caché au creux des coulisses, sur des joues aimées, des larmes qui glissent. Au bout de la route.
Quel est le statut de cette chanson qui a un côté un peu Brel, justement?
Vous
non, pas du tout.
De cette chanson,
non.
C'est une chanson posthume.
De Nougaro.
De Nougaro. Michel a demandé à la veuve de Nougaro des paroles qui existaient. Et dans un tiroir, ils ont trouvé cette dernière chanson qu'il avait écrite. Et il a fait ce petit chef-d'œuvre qui s'attribue aussi bien à lui-même.
Ouais.
Et donc je pense qu'un musicien doit être très sensible à ça. Quels sont les derniers moments de la vie musicale?
Il y avait
Stéphane Lerouge.
La relation entre Michel et Nougaro était une relation belle, mais remplie aussi de assez complexe, aussi paradoxale. Nougaro avait le sentiment que Michel s'était envolé vers d'autres horizons, était parti à Hollywood et l'avait un peu abandonné. Donc ils se sont retrouvés à plusieurs reprises, mais jamais avec l'intensité des débuts. Et Michel a toujours eu ce regret-là. Et je me souviens très très bien, parce que j'ai vu Legrand le jour où il a vu déjeuner avec Hélène Nougaro, elle lui avait donné ce texte, et Michel a pleuré quand il a vu la dernière rime, se dire « Mon dernier concert sera-t-il donné à tombeau ouvert ou guichet fermé ?» Et il a posé le texte, et un quart d'heure après, la chanson était écrite. Voilà. Et donc, c'était une façon de saluer Nougaro à travers les nuages.
Alors, Michel n'a pas eu le succès qu'il aurait aimé avoir comme chanteur. Moi, je le trouve admirable, chanteur. Mais c'est trop bien. C'est trop raffiné, c'est trop musical. Ce n'est pas assez canaille. Et donc, il n'avait pas cette... Lui, il chantait, quoi. Il chantait.
Il chantait aussi quand il composait.
Il hurlait. Quand il n'était pas content.
Dans le salon. Ouais,
mais
dans
je
le
suis
salon.
Trop con, mais comment j'ai pas pensé à cette variation? Mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait cet accord? Et il se tapait sur le piano. Mais il était d'une rapidité et d'une imagination colossale.
Hein. Il y avait du rituel pour le travail?
Aucun. Ça peut être la nuit, le jour, n'importe quand, ayant mangé, pas ayant mangé. Mais il y avait un petit rituel, c'est après. Il avait besoin de se défouler dans quelque chose. Alors, quand il était plus jeune, c'était le tennis ou monter en avion. La sexualité?
Ben c'est toujours ça de gagner, hein, franchement.
Oh, ouais. Vous voyez comme vous avez une vision...
Non, mais je trouve ça formidable.
Consumériste. Ah bon. De la...
Non, hygiéniste aussi parfois.
Et puis la nature, se promener, aller respirer, etc., courir. Il y avait quelque chose de physique dans la composition.
Mais cela dit, c'est vrai que tu as raison sur vraiment un point, notamment, c'est qu'il était très autocritique sur son propre travail. Il n'était pas du tout en admiration de lui-même. Et quand je vous disais qu'il ne voulait pas tout le temps réécouter ce qu'il avait fait autrefois, un jour je lui ai posé la question, il m'a dit parce que soit on trouve ça formidable et on se dit qu'on ne pourra pas faire mieux, soit on trouve ça vraiment raté à côté de la plaque et on se dit mais comment j'ai pu ne pas orchestrer cette œuvre de cette façon-là, pourquoi j'ai pas mis une modulation à cet endroit-là, pourquoi j'ai pas renversé cet acte, voilà, c'est tout. Donc il y avait vraiment un regard très distancié par rapport à son travail.
Il y avait des œuvres qu'il avait créées qu'il ne supportait plus.
Il y avait des choses sur lesquelles il avait parfois été pour un film, notamment peut-être sous l'influence d'une mode ou d'un rythme de musique de danse, et qui disait, bon, là, j'ai un peu trop joué la carte du moment, de l'époque, et finalement, cette musique ne passe pas
le
temps.
Il avait tellement de talent que même quand il se moquait des musiques qu'il écrivait, il a écrit des rock'n'roll, roll mops, là, avec Boris Vian, c'était un gag, et ça a été un tube.
Exactement.
C'était tellement bien que de toute façon, ça a passé pour du bon rock.
Tout comme le twist Digga Ding Ding,
voilà,
qui est devenu un tube aujourd'hui.
Un tube absolu.
Alors, sur le CD5, c'est Michel Legrand Cinéma. On trouve bien sûr les films de Jacques Demy, la BO de La Piscine de Jacques Deray, l'affaire Thomas Krohn, le film qui avait été monté sur sa musique, et puis des inédits extraits. Sur cette composition qui est alors une histoire aussi très particulière, Stéphane Lerouge, Macha Meryl.
Michel a travaillé sur un film d'Orson Welles qui s'appelle F for Fake, Vérité et Mensonge, en 73, un film sur l'illusion. Il était resté ami avec Welles et Welles a tourné entre 70 et 76 un film qu'il n'a jamais monté, qui s'appelle The Other Side of the Wind, l'autre côté du vent. Et finalement, le directeur de production du film, Frank Marshall, avec Netflix, l'a fait aboutir, mais 45 ans
en
plus tard.
En rachetant les droits à droite à gauche, entre autres à Dominique Antoine, qui vient de nous quitter, la productrice, qui était la première productrice. Alors c'est un film posthume, là aussi, et qui a beaucoup fait souffrir Michel, justement parce qu'il n'avait pas le cinéaste avec lui. Et en plus, c'est un film noir, un film sombre, un film qui crache surtout sur le cinéma, sur les femmes, sur l'amour, sur Hollywood. Et donc Michel a... Ça n'a pas été une œuvre facile.
Mais c'était surtout troublant, effectivement, pour la première fois, de se retrouver sans metteur en scène. Et puis, surtout, le fait que la production l'ait appelé, mais 45 ans après le tournage du film. Donc, c'était vraiment une façon presque d'inverser le temps. Et là-dedans, il y avait déjà presque aussi un dialogue avec la vie après la vie, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il a écrit ce thème principal comme une sorte de mouvement lent de concerto pour piano et orchestre. Et à son dernier concert, début décembre 2018, à la Philharmonie de Paris, Michel a dirigé cette œuvre-là. Donc c'est le bout de la chaîne, c'est vraiment l'adieu au cinéma avec un metteur en scène qu'il allait bientôt rejoindre.
Parce qu'Orson Welles avait laissé une ligne dans un de ses scénarios, « Give the music to Michel Legrand ». Donc il était obligé de le faire, c'était un devoir.
Macha Meryl, Stéphane Lerouge, on se retrouve dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault, avec vous aussi Vanessa Wagner, qui est un peu aussi notre programmatrice ce soir. Dans la playlist de France Inter, vous avez choisi « La quête » d'Orelsan. Un mot sur ce choix?
En fait, l'album d'Orelsan a beaucoup tourné chez moi parce que mes enfants l'ont beaucoup écouté. Et moi, j'ai été assez marquée par cet album que j'ai trouvé... très beau, très engagé, assez politique. Ça fait du bien d'entendre des textes comme ça. J'aime beaucoup le personnage. Alors j'ai laissé ma place à mes enfants qui sont allés le voir à Bercy. Il paraît que le show était vraiment incroyable. Et donc c'est vraiment un grand artiste, ouais.
Les enfants sont prescripteurs, je pense, intéressant.
Ah oui.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah.
pas ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain, le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge, normal mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve, toi t'as tout, nous on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus, donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier, et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Côté Club.
Sur France Inter.
La quête, une programmation de Vanessa Wagner sous la pression de ses enfants. Tout de suite, Marion Guilbeault est au téléphone avec...
Avec celui qui a été révélé par son rôle dans la série 10%, mais on l'avait aussi repéré dans les clips de Calypso Valois, de Yel. Après un premier film Garçon Chiffon, en tant que réalisateur, Nicolas Maury plonge dans le grand bain de la pop et dans la piscine de Côté Club. Bonsoir Nicolas Maury.
Bonsoir à vous.
Alors ce soir, nous sommes avec la pianiste Vanessa Wagner, Macha Merrill, Stéphane Lerouge, avec lesquels nous évoquons Michel Legrand. Et je vous pose donc la question du jour, du soir. Quel est votre Michel Legrand à vous?
Il est tellement multiple. Déjà, il ne sera jamais à moi, malheureusement. Ces chansons, j'ai un peu l'illusion, la douce illusion que certaines appartiennent à mes désordres, mes désastres intérieurs, et que ces chansons les ont hissées vers un peu de lumière. Mais je dirais que mon Michel Legrand préféré, peut-être, c'est celui des Parapluies de Cherbourg.
Alors Michel Legrand, il est inévitablement associé aux comédies musicales de Jacques Demy. C'est un genre auquel vous êtes sensible, hein, Nicolas Maury. Vous finissiez votre premier film Garçon Chiffon en tant que réalisateur en chantant. Extrait.
Il a fallu en faire taire des doutes, apprendre à croire en demain. Je prends ce que tu me donnes et j'en fais.
Garçon velours, c'était composé par Olivier Marguerite, c'est votre complice. Juste encore une question sur les musiques de films. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont vos préférences? Parce que pour Garçon Chiffon, vous aviez, paraît-il, demandé à Olivier, qui a signé la BO, de s'inspirer de Henri Mancini.
Oui, je voulais être un peu ma propre Audrey Hepburn, parce que cette chanson Moon River est vraiment pour moi un des thèmes, c'est même mon réveil, donc vous imaginez. Donc Moon River pour moi chanté par de Mancini, donc chanté par Audrey Hepburn. Oui, j'aime beaucoup Mancini parce qu'il y a une forme de, je sais pas comment on dit, c'est la chatoyance ou le chatoiement, je sais pas, en tout cas c'est chatoyant, il y a des cuivres, souvent on dit less is more, mais lui c'est plutôt more is, is beautiful, et j'aime beaucoup ça, voilà, chez Mancini.
Un mot sur le chant, Nicolas Maury, on vous a vu récemment sur France 2 interpréter Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, il y avait Sofiane Pamart et Juliette Armanet avec vous. Anne Sylvestre, est-ce que c'est une voix qui a compté pour vous?
Énormément, elle est même instigatrice d'une scène entière avec, entre Nathalie Baye et moi dans mon propre film Garçon Chiffon. C'est une chanson qui s'appelle Ma chérie. Ce que j'aime beaucoup chez Anne Sylvestre, alors moi j'ai pas du tout été éduquée par les chansons enfantines comme souvent. Moi
les
c'est j'ai plutôt Les Fabulettes, c'est ça. Moi, c'était plutôt ces chansons de chanteuses, enfin de jeunes chanteuses, ces albums. Mais ce que j'aime déjà dans la femme, c'est son engagement. Et puis surtout, j'aime beaucoup celles qu'on a un peu ostracisées, c'est-à-dire qui n'ont pas été les stars de leur époque. Comme par exemple Hélène Bessette, l'écrivaine, qui a été complètement mise de côté par Duras. Et en fait, c'est pareil, Anne Sylvestre, c'est un peu l'ombre de Barbara, l'ombre de beaucoup de chanteuses et puis de chanteurs aussi. Même on disait d'elle que c'était une Brassens au féminin, ce qui est quand même d'un comble de machisme. Voilà. Mais Anne Sylvestre, j'adore ses chansons. Et pour la petite anecdote, c'est que quand elle m'a offert les droits de sa chanson, donc de son vivant, elle était heureuse, elle a répondu, au moins un qui prend pas Les gens qui doutent, parce qu'elle en pouvait plus qu'on ne parle d'elle que pour cette chanson Les gens qui doutent.
Alors elle vous vient d'où cette envie de chanter, Nicolas Maury? Quel a été le déclic?
Je dirais que c'est, je me fais l'effet d'un enfant qui s'autorise lui-même à chanter, parce que j'ai beaucoup rêvé dans ma chambre étant enfant, dans le Limousin, dans un village, et j'ai eu envie de chanter parce que déjà, pour moi c'est pas un si grand événement que ça, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais une voix un peu chantante dans mon parler, mais c'est pas quelque chose que du tout je conscientise, mais voilà. Moi, je viens du conservatoire, du théâtre, et je trouve que le poème lyrique dire racine, pour moi, c'est chanter. Mais chanter, c'est pas l'opposition au concret. Au contraire, le chant, c'est quelque chose de très concret. Le chant de l'âme, c'est quelque chose, voilà. Mais là, de là à être chanteur, je crois que je suis un petit peu frappadingue de le devenir, parce que je crois que c'est être sans rôle pour moi de chanter, c'est être totalement à cru, à nu, et comme jamais, et vraiment comme jamais. Et je me suis redonné peut-être une forme de naissance en devenant, en composant ces chansons.
En devenant chanteur.
En devenant chanteur, j'ose pas le dire.
Mais oui, mais moi je le dis pour vous, en devenant chanteur.
Et on a droit à plusieurs vies.
Exactement, ma chère Mérie.
Et je voulais vous rappeler que vous avez été concurrent du prix Michel Legrand l'année dernière.
Ah, c'est pas vrai.
Mais oui, vous n'avez pas gagné, mais ça viendra.
Le prochain film.
Et je veux vous dire une autre chose, c'est que Mancini a été le parrain de Michel Legrand aux États-Unis. C'est grâce à lui qu'il est devenu, qu'il a eu toutes les grandes opportunités, dont l'affaire Thomas Crown. Mancini devait la faire et elle l'a cédée à Michel. Donc, vous voyez, le monde est petit, on est tous reliés.
Ah ben voilà, ben c'est magnifique. Ben moi, je prends ça comme un hasard merveilleux d'être, un destin merveilleux d'être sur ce plateau un peu avec vous, Macha, parce que je vous ai adoré dans un film de Guy Gilles.
Oh, ça me fait plaisir que vous connaissiez ce film. C'est un film génial. Il aurait été un très, 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 très grand metteur en scène s'il avait survécu.
Oui.
Vraiment, hein. Il est né 10 ans trop tôt, Guy. Il aurait été un immense, mieux que Téchiné, mieux que tous.
Mieux que tous.
Mais oui, voilà.
Merci beaucoup, Nicolas Maury.
C'est moi qui vous remercie.
L'album, ce sera pour cet automne, tout de suite. Oui. Prémisse, c'est le titre de votre chanson. Elle est jouée ce soir sur France Inter.
Il est des rencontres qui marquent à jamais. Sois sûr que cet instant, je m'en souviendrai. Ta beauté insolente
était là, dans la ville abandonnée. Paris au mois d'août, ce chant de liberté. Emmène-moi avec toi, je me fais prisonnier. Promesse d'un soir d'été. Embrasse-moi, je suis à toi, je suis ton prisonnier. Prémisse d'une histoire rêvée. J'avais presque oublié ce sentiment farouche d'un inconnu qui vous parle, mais l'envie qui vous touche. Je sens quelque chose en moi pousser comme une fleur. Arrose-moi de ta voix et viens cueillir mon cœur.
Nicolas Maury dans un nouveau rôle ce soir dans Côté Club, celui de chanteur avec Prémisse, un titre composé par Olivier Margueri.
Côté Club
sur France Inter.
Macha Merrill, Stéphane Lerouge et Vanessa Wagner sont membres de Côté Club ce soir. Vanessa Wagner, pianiste. Vous chantez aussi ?
Pas du tout, très mal.
Même pas avec vos enfants ?
Ah non, j'ai écouté beaucoup Anne Sylvestre, mais alors j'ai jamais, non, je sais pas, j'ai l'oreille absolue et je chante faux, c'est affreux.
Pianiste à la formation classique, le piano ça commence à 7 ans, premier prix de Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'âge de 17 ans, une victoire de la musique, révélation instrumentale solo en 99, pour quel répertoire à l'époque ?
C'était Mozart.
Ça va ?
Ouais.
Classique. Aujourd'hui un nouvel album, Study of Invisible, que raconte ce titre ?
Ah, il raconte pas mal de choses. En fait, il raconte les liens invisibles que je tisse entre justement toutes ces musiques que j'interprète et qui existent entre toutes ces musiques. Et puis aussi ce qui se dit de très précieux par la musique et ce qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec les mots. Ce qui existe aussi entre les êtres. Voilà, c'est un album que j'ai enregistré au moment du confinement où toutes les salles étaient fermées, où on était un peu privés de ce lien culturel, social, ce lien de vie. Et donc, voilà, il y a aussi beaucoup de mystères qui émanent de cette musique, beaucoup de silence, beaucoup de respiration, et finalement, c'est très très beau.
Avant de plonger dans ce répertoire, Vanessa Wagner, je voudrais, pour vous présenter, vous faire entendre quelques titres hors répertoire classique. J'ai mené mon enquête, vous me direz ce qu'ils peuvent bien représenter pour vous.
Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas.
Identification de cette voix.
Kiefen, évidemment.
Que vous avez écouté.
Mon idole de mes 13 ans, 12-13 ans, ouais. J'ai écouté absolument, ouais, tous ces albums, ces textes merveilleux. C'est vraiment très daté pour moi d'une époque, mais ça a été vraiment le premier pour qui j'ai eu. Je trouvais que ces textes étaient vraiment sublimes, tout cet univers hyper noir. Je sais pas ce que j'y comprenais quand j'avais 12 ans, honnêtement, et j'étais une petite fille modèle qui travaillait son piano. Mais pour moi, ça, c'était vraiment hyper, hyper important.
Deuxième titre.
Oh. Oh.
Je vous ai entendu pousser un soupir.
Oh, oui. Oh là là, quelle beauté, Arvo Pärt. Ça fait partie des pièces que j'ai le plus écoutées. Sur mon canapé et aussi en concert avec les larmes qui coulaient, et c'est vraiment une œuvre d'une profondeur mystique, spirituelle immense. J'étais à la Philharmonie, il était là, c'était pour ses 80 ans, et ensuite je l'ai rencontré quand j'ai fait un concert Liszt et Arvo Pärt à la Philharmonie. J'ai pu dîner avec lui, tout ça. C'est Arvo Pärt, sa musique que certains n'accèdent pas, qui pense qu'elle est trop simple, trop dépouillée, trop, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est d'une profondeur et d'un mystère absolument incroyable.
Ça a été un tournant, justement, dans votre appréhension de la musique, puisque vous venez du classique, mais on voit bien que vous n'êtes pas du tout, vous ne faites pas l'économie de ces autres registres. Comme bon nombre de musiciens classiques qui sont plutôt tellement focalisés sur leur répertoire, et on le comprend, hein, quand on travaille bien depuis l'âge de 7 ans, 5 ans, un répertoire, le reste...
C'est très riche, ouais.
Ça a été un tournant pour vous, la musique d'Arvo Pärt, votre parcours?
La musique d'Arvo Pärt, oui, et la musique de Reich et de Glas, clairement. Alors Arvo Pärt, c'est le premier que j'ai, entre guillemets, osé jouer pendant mes concerts classiques, puisque j'ai même fait un disque qui mêlait la musique de Liszt et de la musique de Pärt. Mais elle est parfois un peu... méprisée ou mal comprise parce qu'il y a une certaine forme d'épure et de simplicité apparente. Il y a par exemple Furalina qui est vraiment une espèce de berceuse qu'il a écrite en forme de berceuse qui est très une œuvre très mystérieuse. Il y a quelques notes à jouer, mais c'est en accédant à ce mystère là qu'on plonge dans son univers.
Troisième extrait. J'avoue que pour moi, ça a été une révélation. Je ne connaissais absolument pas. Vous, vous connaissez
Marion? Non, je ne connaissais pas non plus.
Lucille, alors ça, c'est de la musique ambiante. J'en écoute énormément et notamment Murkoff, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et Lucille, c'est les deux maîtres actuels. Et ça, cet album, Lifelike, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, notamment durant le confinement. Et...
Tout le monde écoutait de l'ambiante pendant le confinement. C'est vrai, on a reçu plein de gens qui écoutaient cette musique-là. Ouais.
Moi, c'est ramollissant quand même, non?
Ouais. Ah, bah oui, mais moi, enfin non, je trouve pas du tout ça ramollissant. C'est pas le terme que j'emploierais. Mais je me suis fait très récemment la réflexion que j'écoute de l'ambiante depuis
très longtemps,
depuis que j'ai 20 et quelques. Et je me suis fait la réflexion que j'en étais arrivée à jouer cette musique et à comprendre la musique minimale que j'aime et que je défends en tant qu'interprète. Peut-être parce que je m'étais plongée dans cette espèce de temps complètement allongé, dissipé, où on perd un peu des notions de, justement, de tempo, de temporalité. Et j'aime énormément, plonger dans cet univers. Et moi qui suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui passe beaucoup de temps dans l'introspection, l'analyse, etc. Je trouve que cette musique, quand on accède à ça, c'est juste une merveille.
Dernier extrait pour vous présenter.
J'ai écouté ça dans le métro en arrivant.
C'est vrai?
Ouais, là j'adore.
Quête Tempeste.
Quête Tempeste, merveilleuse.
On dit Kay.
Kay, elle a...
Ouais, je sais.
Ouais.
C'est un Yel.
Ah oui.
Extraordinaire. Poétesse, ses livres sont incroyables aussi. Et il y a la même rage et la même verve, c'est vraiment une fille. Enfin, je sais pas si c'est une fille ou si on l'appelle encore une fille, mais elle est incroyable. Et puis, je trouve que, alors dans ce titre qu'elle a pas fait toute seule, qui est plus rythmé, mais elle peut avoir des chansons qui durent 10-12 minutes avec cette rage-là, j'adore.
Comment arrive ce goût pour la musique électro? Est-ce que c'est en fréquentant des clubs, Vanessa Wagner?
Oui, absolument, absolument. C'est après une adolescence.
Donc vous n'étiez pas enfermée avec votre piano, en fait.
J'ai eu une adolescence très studieuse, comme on l'a, je pense, tous. Et puis j'avais des parents.
Prof de lettres,
qui m'ont fait, alors qui m'ont permis d'avoir une grande culture. J'ai énormément travaillé. Et puis à un moment, j'avais fini mes études très tôt et j'avais pas encore à proprement parler de carrière. Et j'ai tout fait. Enfin, un petit peu. Oui, je pense que. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que le monde de la fête et de la nuit m'a un peu sauvée. Et c'est pour ça que j'y suis tellement attachée. Et
vous allez dans quel club à Paris?
J'allais au Queen. Au Queen en 93.
À la bonne époque.
La totale.
La totale.
Au Pulp,
ah oui.
Au Pulp et au Palace aussi.
Ah oui, donc, oui. Ouais, donc vous aviez un sacré rapport avec la musique qui se faisait à ce moment-là.
Oui, ouais. Oui. Et puis ça m'a. En fait, j'y allais pour l'atmosphère, pour toute cette joie que j'ai découverte. Et puis cette transgression. Hein, ça paraît un peu bête parce que j'avais plus de 20 ans. Mais pour moi, sortir, c'était un peu transgressif quand même. Parce qu'il fallait se relever le matin et travailler quand même, etc. Et j'ai commencé à écouter un peu du garage, de la house music et tout ça. Et puis, je tournais assez vite vers des choses beaucoup plus pointues, de tout le label Warp, Trésor, etc.
Vous avez travaillé plus tard avec Molécule, vous avez travaillé aussi avec Rhône. Aujourd'hui, un nouvel album, Study of Invisible. On écoute l'étude numéro 6 de Philip Glass. Thank you. Étude numéro 6 de Philippe Glass, interprétation Vanessa Wagner. Il y a encore des résistances par rapport à ce genre de musique ?
Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup. Qui viennent un peu de... Enfin, qui s'estompe, hein, bien heureusement. D'ailleurs, j'ai pas osé jouer cette musique jeune. Et puis aujourd'hui, quand même, il y a une assise. Là, j'ai fait des émissions entières sur Philippe Glass. Voilà, chez les gardiens du temple, si je puis dire, il est revenu à de la musique tonale. Et voilà, il a cassé avec tout l'école Boulez, etc. Donc ça, il y a des gens qui pardonnent pas du tout. Et puis on dit que c'est répétitif, donc que c'est simple, donc que c'est... Voilà, et puis il a fait de la musique de film, lui aussi, donc il a cassé les frontières entre musique savante, musique populaire, enfin, pas que lui, bien sûr, mais ce courant-là a participé à ça, donc il y en a pour qui c'est presque une trahison, oui, probablement.
Comme moi, je peux vous faire une confession, c'est que je serais sûrement allé au Queen si on y avait diffusé du Philippe Glass.
Mais vous savez qu'on y a diffusé certainement de la musique qui a permis justement à Vanessa Wagner de pouvoir plus tard écouter du Philippe Glass.
Oui.
C'est-à-dire la musique électro qui joue aussi sur la dimension répétitive, sur les boucles.
Sûr, ouais.
Mais vous savez, moi j'ai eu la chance de pouvoir approcher fugacement Philippe Glass sur la confection d'un coffret Scorsese dans Écouter le cinéma, puisqu'il a fait la musique de Kundun, et c'est exactement la même chose que Morricone ou Legrand. C'est-à-dire que Glass, quand il écrit pour le cinéma, il arrive à écrire une musique à la première personne à travers l'univers d'un autre créateur qu'il metteur en scène. Et ça, c'est vraiment de marque.
Autre chose avec vous, Vanessa Wagner, je l'ai dit, vous avez travaillé avec les compositions électro d'Aphex Twin, vous avez collaboré avec Molécule, qu'on a reçu ici, et puis jusqu'à vous produire avec un des compositeurs les plus lyriques de l'électro-française, Rhône. De Motion, donc une composition signée Rhône. Moi, je me suis demandé, qu'est-ce que vous aviez appris, ou plutôt désappris, en jouant ce répertoire avec les maîtres de l'électro, Vanessa Wagner ?
Je ne sais pas ce que j'ai appris, mais en tout cas, j'ai gagné ma liberté. J'aime infiniment aujourd'hui avoir trouvé cette place que je n'ai pas par avance pensée, mais j'y suis allée presque malgré moi et par nécessité. Et aujourd'hui, je navigue entre ce grand répertoire classique dont vous parliez et je m'octroie cette liberté et cette joie, ce plaisir d'aller collaborer avec un musicien comme Rhône qui fait une musique effectivement très symphonique.
Une question, est-ce que c'est écrit ?
Oui, ça c'est
vraiment,
écrit.
Lui
travaille avec un orchestrateur qui connaît très bien l'orchestre.
Vous aviez une partition.
Oui, j'avais une partition, absolument.
Moi, je rêve d'une version revisitée du dialogue des Carmélites par Rhône pour avoir l'affiche Rhône Poulenc.
Oh, il fallait
ça serait presque le mot de la fin. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Rhône Poulenc pour Stéphane Le Rouge.
Je vais les glisser.
On va se quitter avec Malik Judy. Vous connaissez les uns et les autres.
Ah bah oui. Il est adorable. En plus, j'aime beaucoup cette artiste.
Voix de tête, électro sophistiquée et une visite à la Saatchi Gallery de Londres. Judy est un esthète.
Pas besoin d'impossible, ni de moment intense. Rendez-vous à Saatchi pour des accolades. À faire du lèche-vitrine, on se fond dans la foule. En tenue Versace, un petit col rouge. Dans le monde d'avant, pour l'instant en solo.
Voilà, côté club, c'est déjà fini. Merci, ma chère Meryl.
Merci, à bientôt.
Merci, Stéphane Lerouge.
Merci, Laurent.
Le coffret Michel Legrand, Hier et Demain, vient de sortir. Stéphane Lerouge, je rappelle, bien sûr, vos deux livres écrits à quatre mains avec Michel Legrand. Rien n'est grave dans les aigus en 2013 et j'ai le regret de vous dire oui. Ça, c'était en 2018 chez Liana Lévy. Je signale que le 8 mai sera remis le prix Michel Legrand au domaine de la Motte. Un grand prix récompensera un compositeur de musique de film. Le second prix récompensera un jeune compositeur. Et puis, un prix d'honneur sera remis à Joey Issa pour l'ensemble de son œuvre. Vanessa Wagner, merci à vous.
Merci beaucoup. Abby.
L'album, c'est Study of Invisible. Le bonjour à vos enfants. Vous serez en concert. Alors là, quel... je vais pas tous les dire, c'est énorme. Le 7 avril à Antony, le 19 à Avignon, le 23 à Nantes, le 10 mai à Montauban, le 20 à Paris, Église Saint-Eustache, le 21 à la scène musicale de Boulogne, plein d'autres dates sur les internets. Marion ?
Prémisse, c'est le titre de la première chanson de Nicolas Maury. Elle est allée retrouver, elle, sur tous les interwebs.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ? Anne Passeo sera en live demain pour Côté Club avec Bertrand Louis à ses côtés. Et pour vous, Marion ?
Lundi soir a eu lieu le prix de la création musicale 16 lauréats-lauréates. On en parle avec Catherine Cuny, éditrice et une des organisatrices de cet événement.
Côté Club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Jérémy Kaufmann, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, bien sûr, la programmation et Thierry Dupin qui veille sur les playlists. Côté Club, on ferme, que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.